déclic, la Russie, l'Ukraine et l'Occident, avec Giuliano D'Empoli et Igor Gran. Cela va faire bientôt un an qu'un événement qu'on croyait devenu impossible dans l'espace européen, la guerre, a lieu aux confins de l'Europe. Pendant que cette guerre, tout à la fois, s'intensifie et s'installe, s'aggrave et s'enlise là-bas, la vie ici continue. Nous vaquons à nos occupations, nous nous affairons, nous nous divertissons, nous manifestons ou non contre la réforme des retraites. Rien de plus humain, rien de plus normal. Nous ne sommes pas en première ligne, nous sommes seulement aux premières loges. Reste qu'on ne peut pas non plus faire comme si de rien n'était. Jusqu'où ira ce conflit? Serons-nous, un jour ou l'autre, embarqués? Vivons-nous les prémices de la Troisième Guerre mondiale? Le retour de la guerre conventionnelle sur le vieux continent annonce-t-il la fin de la dissuasion nucléaire? Ces questions qui me hantent et me tourmentent, j'ai voulu les poser aujourd'hui à deux écrivains. Giuliano D'Empoli, l'auteur du Mage du Kremlin, et Igor Gran, qui publie Z comme zombie. Nous sommes nombreux, je crois, à être désemparés et à vouloir comprendre. Ce qui, par exemple, reste mystérieux, malgré l'abondance des commentaires, c'est la décision inaugurale de Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui a pu le pousser? Lui qui, jusque dans sa froideur, avait toutes les apparences de la rationalité, a déclenché une opération militaire spéciale aux conséquences aussi dévastatrices. Giuliano D'Empoli.
Vous savez, Chateaubriand parlait déjà de ce nuage qui se forme autour des princes et qui les aveugle, leur faisant voir dans le ciel des paysages chimériques, etc. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec Vladimir Poutine au début de cette année. Il a été frappé par une forme particulièrement violente de nuages d'aveuglement qui entoure ceux qui sont seuls au pouvoir. L'exercice du pouvoir longtemps produit cet effet, inévitablement, on devient moins capable de voir la réalité des choses. Poutine est au pouvoir depuis très longtemps, de plus en plus isolé. Il y a des gens qui disent que le Covid aurait effectivement accentué ça, en le laissant encore plus seul avec ses idées, ses illusions par rapport à ce qui se serait passé en Ukraine. Je ne crois pas qu'il n'ait pas calculé du tout. Je pense qu'il ait fait un très mauvais calcul sur la base d'une très mauvaise perception. Il a pensé qu'il serait accueilli en Ukraine, du moins par une partie de la population, de façon beaucoup plus enthousiaste. Il a pensé que les russophones étaient d'une certaine façon russophiles, alors que ce n'est pas évidemment pas du tout le cas. Il pensait que son armée était beaucoup plus forte que l'armée ukrainienne. Il pensait aussi que la réaction non seulement des Ukrainiens, mais aussi des Européens serait beaucoup plus faible et qu'on le laisserait faire comme on a déjà fait par le passé.
C'est-à-dire on l'a laissé faire en effet en Crimée, où les sanctions ont été limitées, on l'a laissé faire en Géorgie, et son hubris vient peut-être de la faiblesse des Occidentaux face à ce genre d'opération.
Il a fait ce qu'il a voulu en Syrie aussi, avec une violence extraordinaire. Et puis, il y a eu le retrait de l'Afghanistan aussi. Les modalités avec lesquelles ça s'est passé l'été 2021. Et donc, il a vu, disons, cette sorte de débâcle. Et il a eu un peu cette idée que, de toute façon, aucun pouvoir fort ne se confronterait à lui. Et je pense que c'est un peu une combinaison de ces différents facteurs qui ont porté à sa décision assez catastrophique du 24 février.
Décision catastrophique, parce que vous dites dans votre livre, Giuliano d'Empoli, que l'objectif de tout pouvoir à l'œuvre est l'abolition de l'événement. Vous citez Custine, et la phrase est effectivement merveilleuse, « Une mouche qui vole hors de propos pendant une cérémonie humilie le tsar ». Poutine est dans votre livre le nouveau tsar, mais il a donc été quand même humilié par l'événement qu'il a lui-même déclenché parce que il est allé très au-delà, cet événement, de ce qu'il pensait.
Tout à fait. Là, en termes d'absence d'événement, c'est raté. Mais on voit bien quand même qu'il profite des circonstances pour établir à l'intérieur du pays un ordre qu'il espère être implacable. Hein, on voit qu'il resserre tous les boulons et donc il essaye malgré tout de faire d'une situation qui quand même lui est plutôt défavorable, de la transformer en une occasion à l'intérieur pour aligner complètement la société, les élites russes sur sa ligne, sur son pouvoir. Et je pense que cette idée d'un nouvel ordre intérieur est quelque chose qui compte aussi parmi les choses qui sont en train de se passer.
Yegor Gran.
Oui, vous avez raison. Il a sous-estimé la résistance ukrainienne, il a sous-estimé l'Occident qui, pour une fois en 25 ans, s'est montré unis, assez unis, on va dire, pour le moment. J'espère que ça va durer. Oui, vous avez eu raison aussi de rappeler, les reculades de l'Occident. Hein, déjà en 2014 en Crimée, en 2008 en Géorgie, mais même avant, la guerre en Tchétchénie, au milieu des années 90, était un échec de l'Occident incroyable, puisque vous aviez un gouvernement russe qui massacrait une région entière dans son propre pays, et l'Occident a fait semblant de ne pas le voir en disant, en gros, que c'est une affaire interne, et donc on ne s'en mêle pas. Alors qu'à l'époque, moi je pense que les racines du mal remontent à cette guerre, à l'époque il aurait été si simple pour l'Occident de taper du poing sur la table et de couper, par exemple, le robinet des investissements, et évidemment, à l'époque Yeltsin, puis ensuite Poutine, ce serait évidemment aligné. Mais il a aussi donc sous-estimé l'Ukraine, il a surestimé sa propre armée. On a vu quand même une armée Potemkin arriver sur le terrain au son du clairon et puis ensuite s'apercevoir qu'ils sont sous-équipés à un niveau incroyable. On s'aperçoit que leurs chars datent d'il y a 20 ans, qui n'ont jamais été remis en ordre, etc., etc. Moi, je me souviens, on avait déjà un petit peu un indice l'année dernière, avant même l'invasion, j'avais appris que le prix de l'essence diesel la moins chère au monde se trouvait en Biélorussie. Pourquoi ? Parce que les soldats russes siphonnaient leurs chars pour revendre le diesel aux paysans biélorusses. Donc tout ça montre qu'il y avait en effet un problème de lucidité de la part de Poutine.
Oui, reste à savoir et pourquoi Vladimir Poutine a voulu, le 24 février 2022, déclencher cette guerre. Alors, Michel Fouché, le géographe, a publié un tract Ukraine-Russie, la carte mentale du duel, et c'est très intéressant parce que il cite le livre de Brzezinski, l'ancien conseiller de Jimmy Carter. Dans ce livre, Brzezinski fait de l'Ukraine l'un des quatre piliers d'une tête de pont démocratique sur le continent. Il pense que l'Ukraine doit être définitivement détaché de la Russie, ce qui permettrait à la Russie de cesser d'être un empire. Donc il faut l'intégrer dans une structure euro-atlantique. Et j'ai appris en lisant Michel Fouché que le grand échiquier de Brzezinski était la Bible des diplomaties polonaises et lituaniennes. Mais j'ai appris aussi que ce livre était perçu et analysé en Russie comme un programme stratégique offensif contre les intérêts russes de sécurité. L'OTAN y était comparé à une alliance de la même nature que l'Axe, préparant l'équivalent moderne d'une opération Barbarossa contre la Fédération de Russie, et que le Grand Échiquier faisait partie des ouvrages étrangers traduits et étudiés à l'Académie militaire russe des forces armées de l'état-major. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que il y avait quand même une sorte de complexe obsidional en Russie, cette idée que l'Ukraine se rapprochait dangereusement de l'OTAN et que c'était pour la Russie une menace existentielle. Est-ce que vous accordez crédit à cette vision des choses, Giuliano D'Empoli?
Oui, tout à fait. Mais écoutez, je pense que franchement, c'est hypocrite de dire que cet argument-là ne serait qu'un prétexte, qu'une sorte de voilà, et que l'argument même de l'OTAN ne serait que un prétexte qui est utilisé par Poutine pour justifier ses actes. Il y a malgré tout. Et je pense que c'est difficile de le dire aujourd'hui parce que vous voyez évidemment le conflit, la violence, les atrocités déployées par les Russes en Ukraine font que aujourd'hui nous ne voulions même pas essayer de percevoir ce qui peut avoir quelle a pu être la perception de l'autre côté. Mais je pense que ça, c'est en partie une erreur. Carl Schmitt disait le défaut du vainqueur est de n'avoir aucune curiosité pour le perdant. Nous n'avons eu aucune curiosité pour le perdant, pour son point de vue au cours de ces dernières années, et nous l'avons encore moins aujourd'hui. Après, essayer de regarder ce point de vue-là ne veut pas dire justifier les actes qui sont commis. Et en plus, évidemment, il n'y a pas que ça dans la position russe. Il y a aussi une volonté de restaurer une forme d'autoritarisme et d'impérialisme qui n'a rien à voir avec notre culture. Mais parler de l'OTAN et de ces enjeux-là comme s'il ne s'agissait que d'un élément anecdotique, à mon avis, signifie ne pas comprendre le fait qu'il y ait effectivement du côté russe l'idée que cette guerre a une valeur existentielle. Justement.
Alors, c'était pas le manque de curiosité pour le perdant, c'était le manque de curiosité pour l'agresseur, parce qu'on ne sait pas s'il va être le perdant. Mais effectivement, étant
le
donné qu'il est l'agresseur,
est devenu l'agresseur. Évidemment.
Étant donné qu'il est l'agresseur, on n'a pas envie d'entrer dans ses raisons. Qu'est-ce que vous en pensez, Yegor Grah?
Non, je ne suis pas du tout d'accord. En fait, là-dessus, je pense que c'est l'idée que l'OTAN est une menace pour la Russie est absolument risible.
Oui, mais est-ce qu'elle est vécue comme telle?
Alors,
c'est ça la question.
Elle est vécue comme telle, peut-être, par quelques clans militaristes en Russie. Elle est surtout... ce n'est pas tant une menace militaire qui pèse sur la Russie. C'est l'idée de grandeur contrariée, si vous voulez. La Russie vit depuis des dizaines d'années dans l'illusion que c'est un pays immense qui doit avoir son mot à dire sur la planète entière. Et tout ce qui contrarie cet impérialisme est évidemment vécu comme une frustration. Et donc, ce n'est pas tant que l'OTAN menacerait militairement la Russie, qui est, alors, c'est ce qui est brandi aujourd'hui par la propagande russe. C'est un masque bien pratique, évidemment, pour rallier autour de cet argument tous les anti-atlantistes du monde. Et il y en a. Mais en réalité, la source, si vous voulez, de l'envie impérialiste de Poutine, c'est la frustration de grandeur, cette espèce de rêve fantasmé d'une Russie qui imposerait sa loi, qu'elle l'a déjà fait hein, sur toute une bonne partie de l'Europe de l'Est. C'est pour ça que l'Europe de l'Est est aux avant-postes de la résistance à Poutine. C'est qu'ils l'ont vécu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont vécu sous le joug de cet empire. Ils savent très bien comment ça se passe. Et ça fait pas du bien.
Écoutez,
il n'y ait pas d'équivoque. Je suis parfaitement d'accord avec vous pour dire que l'OTAN ne représente certainement pas, dans les faits, une menace militaire par rapport à la Russie. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais, et vous l'avez d'ailleurs raconté de façon admirable dans votre livre, il y a des arguments qui peuvent être pris, disons, dans une machine de propagande surpuissante.
Ah, oui, vous avez raison.
La voilà, pour générer. Et je pense que cet argument-là, c'est-à-dire l'argument qui consiste à dire l'OTAN à nos portes, l'Ukraine est en train d'être transformée en une anti-Russie sur la base d'un dessin qui, oui, est tracé dans Brzezinski, mais qui remonte encore plus loin parce que c'était déjà les Polonais qui voulaient faire ça dans les siècles, etc. Et que donc l'Ukraine est en train de devenir un organisme manipulé par l'Occident pour détruire la Russie et pour la... Je pense que cette idée-là, voilà, d'un assiégement militaire, culturel, politique, etc., est quelque chose qui est utilisé de façon très puissante à l'intérieur de la... Et qui motive... Et donc, qui, de façon, si vous voulez, sincère, mais évidemment, voilà, sur la base d'une manipulation à la base. Je suis d'accord avec
c'est
vous.
C'est là le mot essentiel.
Voilà.
Le mot essentiel, c'est sincérité. Oui. C'est-à-dire que cet argument est-il... oui ou non, une vision sincère de frustration réelle. Et pour ma part, je pense que non. Il est évidemment repris par la propagande, il est repris par quelques personnes du clan militaire ou de, on va dire, de l'ultra-droite de Poutine. Donc, vous imaginez déjà, Poutine est à l'ultra-droite, mais encore plus à droite. On peut toujours trouver quelqu'un plus à droite. Et donc, oui, de manière sincère, mais pour... ce qui est de Poutine et en général du commandement qui a laissé faire cette histoire et qui s'est lancé dans cette aventure, je pense que non, bien sûr. Poutine n'est pas du tout sincère quand il parle de la menace de l'OTAN aux portes de la Russie. C'est juste un prétexte.
Alors, est-il sincère ou non? Bon, effectivement, la question mérite d'être posée. Nous connaissons votre réponse. Mais un autre aspect de la propagande... c'est l'antinazisme. Il s'agissait, avec cette attaque, de dénazifier l'Ukraine. Et il s'agit aujourd'hui de lutter contre un Occident qui refait le coup de la guerre hitlérienne contre la Russie. C'était le sens du discours que Vladimir Poutine vient de prononcer à Volgograd, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire de Stalingrad. Il dit, ça recommence, et comme il y aura des chars léopards, il dit, là, c'est la même chose que les panzers de l'Allemagne nazie. Alors, quel est le sens de cette propagande-là? A-t-elle un impact sur l'opinion russe? Giuliano D'Empoli.
Et je pense que déjà le terme de nazisme a subi en Russie une sorte de glissement sémantique qui vient d'assez loin. C'est-à-dire que déjà Staline, qui était au fond responsable, lui, oui, d'avoir signé un pacte avec les nazis, a assez vite expulsé le nazisme, disons, de sa propre sphère, en le reléguant justement aux nazis ukrainiens qui auraient collaboré, qui ont collaboré avec les Allemands, et progressivement, en transformant le nazisme en un terme qui incorpore tout ce qui s'oppose à la Russie, au fond. Hein, parce que les nazis, aujourd'hui, c'est surtout les ennemis de la Russie. Alors, n'importe quelle forme ils prennent. Et l'avantage, malgré tout, de garder cette référence étant celui, évidemment, de se référer à l'heure de gloire de la mobilisation soviétique face à l'invasion allemande. Et c'est assez important pour Poutine parce que Poutine, si on y pense, son régime est au fond et a été au cours du premier temps et jusqu'à assez récemment plutôt fondé sur la démobilisation. Poutine, au fond, est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir en disant « ne vous occupez plus de rien ». Moi, je rétablis une forme d'ordre et vous ne vous occupez pas de politique et c'est moi qui y pense. Et vous, vous consommez, vous êtes chez Ikea, vous faites... Il y a une dimension de ça quand même dans Poutine quand il arrive à la... Je fais justement la Tchétchénie avec une violence extraordinaire, mais disons, vous ne vous inquiétez pas. Et là, maintenant, ce régime qui a été fondé longtemps sur la démobilisation, il est forcé de remobiliser. Et donc, parce qu'il doit envoyer des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de Russes à mourir au front pour faire une guerre absurde. Et donc, voilà, la référence quand même au nazisme et à la Deuxième Guerre mondiale reste, je crois, mais après, Yegor Gran, évidemment, va pouvoir en dire quelque chose de plus, mais reste une référence, je crois, assez capitale.
Yegor Gran. Oui, l'idée, évidemment, c'est par amalgame récolter la gloire passée pour que cette gloire diffuse dans la société russe actuelle, retombe sur Poutine évidemment, et que tous ensemble, dans un même élan historique à travers les âges, on pourrait aussi faire remonter cette propagande, d'ailleurs pas qu'à la Seconde Guerre mondiale. Les Russes adorent citer 1812, la débâcle napoléonienne en Russie, puis ensuite l'arrivée des Russes à Paris en 1815. Donc, ils adorent ces espèces de tunnels historiques qui prouveraient qu'il y a une sorte de grandeur comme ça, innée dans leur gène, qui comment dire, les soutient dans leur élan impérialiste. Maintenant, vous posiez la question de savoir si ça a un impact sur les Russes. Oui, bien sûr, c'est un impact. La preuve, c'est qu'ils sont encore aujourd'hui, après un an de guerre, à soutenir Poutine. Tous les sondages, les enquêtes, tout ce que vous voulez. Alors, je sais bien que les sondages en Russie, c'est pas évident, mais quand même, convergent pour donner ce chiffre hallucinant de 60 à 70% de gens qui soutiennent Poutine, qui veulent annexer l'Ukraine.
Qui veulent annexer l'Ukraine, qui soutiennent Poutine. Alors, là, je vais poser une question sur, justement, cet homme post-soviétique qui majoritairement semble favorable à la guerre. Vous dites dans votre livre, Giuliano d'Empoli, que le destin de la Russie, le destin des Russes, est d'être gouverné par les descendants d'Ivan le Terrible. Et là, je voudrais savoir quelle est la part de la continuité et quelle est la part de la nouveauté. C'est-à-dire, peut-on dire que l'homme post-soviétique est une variante de l'homo soviéticus, qui était lui-même une perpétuation de l'homme russe vivant sous le despotisme des tsars, ou bien y a-t-il quelque chose de nouveau dans la mentalité de cet homme post-soviétique que Poutine a très bien su saisir, Giuliano d'Empoli?
Écoutez, je ne sais pas, et d'ailleurs c'est mon personnage qui parle dans ces termes dans mon livre, ce n'est pas moi qui en parle comme ça. J'essaie de me mettre dans la tête de ce personnage-là,
ce mage du Kremlin,
qui est conseiller de
ce Poutine, conseiller
et bon, de Vladimir Poutine. Ça ne veut pas dire que, que je partage ses opinions. Je crois qu'il y a quelque chose d'extraordinairement important qui s'est produit au début des années 90, quand le système soviétique s'est écroulé. Et c'est-à-dire qu'il y a quand même tout un réseau de certitudes en partie hypocrites, parce qu'évidemment une bonne partie de la population russe ne croyait plus au pouvoir et aux mensonges du pouvoir de l'époque soviétique. Mais il y avait quand même, disons, une organisation de vie, des repères vieillissants et problématiques, mais qui étaient là et qui se sont effondrés d'un jour à l'autre et qui ont été remplacés par une sorte de chaos politique, idéologique, économique que les Russes ont vécu pendant toutes les années 90, où il y a eu une perte de repères complète. Et ce type type de situation-là, finalement, a débouché sur l'imposition et l'avènement d'un personnage comme Poutine, qui a restauré un cadre, voilà, encore une fois, là, il parle beaucoup de la verticale du pouvoir, donc face au chaos horizontal, disons, si vous voulez, une verticalité avec des principes, des vérités, sur lesquels ont pu d'ailleurs et a pu s'installer cette machine de propagande incroyable que nous voyons aujourd'hui en Russie et qui est le fruit d'une sorte de fusion entre la vieille propagande et la désinformation russe et puis soviétique et les nouvelles technologies qui rendent possible aujourd'hui une propagande beaucoup plus efficace. Donc c'est assez intéressant d'un point de vue, même si vous voulez, d'études de communication, de voir comment ces deux choses se sont combinées pour restaurer tout un ensemble de références, de certitudes, en partie factices, en partie qui riment avec le passé de grandeur soi-disant russe et soviétique, de façon souvent contradictoire en plus, parce qu'encore une fois, la logique aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est que vous pouvez être parfaitement en contradiction. Donc il y a aujourd'hui des soi-disant patriotes russes qui ont la croix orthodoxe tatouée sur une épaule et Staline sur l'autre et voilà, et tout ça fait partie d'une sorte de nouveau mix qui a surtout dans la grandeur, dans cette supposée grandeur impériale russe son dénominateur commun et qui est malgré tout assez toxique et assez dangereuse, je crois.
Igor Gran.
Oui, si vous posez la question de la continuité entre, oui, entre les âges tsaristes, soviétiques, poutiniens aujourd'hui, je dirais que s'il y a un trait qui est resté en continu, présent, hein, c'est l'envie de faire peur à l'Occident. C'est une fierté des Russes de dire « oui, certes, nous vivons mal, certes, nous avons des oligarques très riches et des gens très pauvres aujourd'hui, par exemple, où pendant la période soviétique, nous vivons dans la misère, certes aujourd'hui, mais on nous craint. Nous avons l'arme atomique, nous allons en vaisseau spatial dans les étoiles, etc., etc. »
Oui, alors d'ailleurs, dans Z comme zombie, vous le dites très bien, Igor Gran, la Russie profonde est une bicoque à moitié démolie, où quand on a le malheur d'aller à l'hôpital, il n'est pas rare de tomber sur des médecins et des infirmiers ivres, des chambres insalubres, des matelas posés à même le sol avec du linge sale, et des toilettes encore plus sales. Et vous dites, les Russes, cette indigence honteuse, ils l'acceptent, tant que nous sommes une grande puissance, tant que l'OTAN nous craint. Donc voilà, c'est la grandeur qui compense absolument tous les malheurs. Mais autre chose me frappe dans justement l'émergence de cet homme post-soviétique, vertical du pouvoir, autocratie, mythe de la grandeur, mais aussi et au même moment, une vulgarité à laquelle on n'était pas vraiment habitué. Et d'ailleurs, Giuliano De Empoli, vous accordez une grande importance aux propos de Poutine au moment de la première guerre en Tchétchénie, quand il a dit « nous frappons les terroristes où qu'ils se cachent, nous allons les buter jusque dans les chiottes ». Et vous dites que ce discours a eu un impact dont on n'a pas idée en Occident. C'était la voie du commandement et du contrôle. Les Russes ont senti qu'au sommet, il y avait à nouveau quelqu'un capable de garantir l'ordre. Oui, verticale du pouvoir, et en même temps, libération de toutes les pulsions basses, c'est-à-dire, c'est ça qui est extraordinaire en Russie, c'est ce mélange de verticalité et de tout est permis. Voilà, on dit ce qu'on a sur le cœur, avec la plus grande brutalité, avec la plus grande violence, et ça, il me semble que c'est une conjonction assez inédite.
Oui, et c'est d'ailleurs un des éléments qui me frappe dans la phase actuelle. C'est-à-dire, on a l'impression que du côté russe, voilà, tout en voyant les difficultés qu'ils ont et au fond l'humiliation à laquelle ils font face sur le plan militaire, parce que l'Ukraine leur fait face alors qu'ils n'imaginaient justement pas que ce soit possible. Mais il y a aussi une forme, j'ai l'impression, de jouissance. Dans le fait de dire, bah écoutez, alors là maintenant on fait plus semblant, hein, on doit plus essayer de plaire aux Occidentaux, aux Européens, etc. On revient, disons, à justement à une expression brutale de nos, voilà, on fait peur, on recommence à faire peur, on ne se cache plus, on est dans la brutalité, et Poutine même et son système de pouvoir, on ne se cache plus, là on réinstaure la censure. On fout en prison tous les gens qui ne sont pas d'accord avec nous et qui disent que c'est une guerre et non pas une opération spéciale, qui contredisent notre version des faits. Et j'ai l'impression qu'il y a là une forme, effectivement, de jouissance.
Une forme de jouissance. Et alors, j'étais très frappé dans votre livre, Yegor Gran, par l'existence de ce hashtag « Je n'ai pas honte ».
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
C'est assez extraordinaire, c'est que d'habitude, quand on a une mauvaise pensée ou une mauvaise pulsion, on a honte et on essaie de refouler. Là, pas du tout. Le hashtag « Je n'ai pas honte », c'est quelque chose qui doit unir tous les gens qui se sont débarrassés de ce sentiment de faible, hein, qui est avoir honte. Et donc, on n'a pas honte de quoi ? On n'a pas honte d'aller envahir l'Ukraine, on n'a pas honte des crimes de guerre, on n'a aucune honte à assumer quoi que ce soit. J'ai été frappé il y a pile un an, le 7 février, juste avant la guerre, il y avait cette conférence Poutine-Macron. Et,
ah oui.
Et il y avait cette phrase dite par Poutine, juste à côté de Macron, en parlant
d'Ukraine. Un dicton, hein,
c'est un dicton. Oui, c'est un dicton où il disait que ça te plaise ou non, il va falloir que tu subisses, en parlant de l'Ukraine. Et le parallèle avec la femme battue et violée, vous avez parlé de vulgarité, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose de assumé, de porté haut, et qui rassemble tous les bas instincts de ce peuple qui a soif de grandeur.
Qui a soif de grandeur, à travers, justement, la grandeur, à travers aussi la libération de la bassesse et la fin des scrupules, parce que la honte, c'est le scrupule. Donc on peut dire que la honte, c'est le commencement même de l'humain sur la Terre.
Exactement.
J'ai honte, donc j'ai honte, ma liberté, elle doit pouvoir s'arrêter. Je voilà. Et là, tout d'un coup, non, je n'ai plus honte. Mais la question qui peut se poser maintenant, c'est celle de l'avenir aussi de cette guerre menée sans honte, presque sans limite. Alors que peut-on faire ? Que peuvent faire les Occidentaux ? Isabelle Lasserre, dans Le Figaro, dit que l'engagement occidental en Ukraine a glissé comme une luge sur une pente enneigée, doucement mais inexorablement. C'est-à-dire, on a fourni des casques, et puis maintenant, on en vient à livrer des chars lourds, et peut-être des avions. Alors la question, c'est jusqu'où peut aller l'aide de l'Occident, et question subsidiaire, faut-il prendre au sérieux la menace nucléaire brandie à la télévision, mais aussi par certains leaders russes? Au temps de la dissuasion, c'était le silence. Maintenant, nous sommes entrés dans l'ère de la rodomontade nucléaire. Qu'est-ce que ça signifie, Giuliano D'Ampoli?
Écoutez, je n'ai pas de certitude et je me méfie de ceux qui en ont à ce sujet. Ce que je pense, c'est que l'Europe et l'Occident ont évidemment bien fait de soutenir l'Ukraine de façon aussi forte, parce que c'est quand même la première fois que l'Union européenne envoie des armes et participe donc sous cette forme à un conflit militaire où que ce soit. Et Poutine, évidemment, ne comprend que le langage de la force. Donc, imaginez qu'on puisse négocier avec lui sur la base de quelque chose qui ne serait pas imposé par la force, je pense que ce serait naïf. Donc, de ce point de vue-là, aucun doute. Après, malgré tout, Je pense que la position européenne ne doit pas nécessairement elle de être celle de s'identifier à 100% avec les objectifs militaires de guerre stratégiques et politiques de l'Ukraine et du gouvernement ukrainien, qui doit être justement, il n'y a aucun doute sur les forces qui sont aujourd'hui en présence et sur notre soutien à l'Ukraine, mais je me pose un peu la question par rapport à la doctrine qui aujourd'hui semble s'imposer, surtout aux États-Unis, et qui consiste à dire « nous ne pouvons pas nous permettre une guerre longue, et donc il faut y aller à 100%, fournir tous les équipements militaires qui sont nécessaires, y compris des avions et des missiles si nécessaire ». Menacer la Crimée, qui effectivement a été envahie par Poutine en 2014. Donc c'est légitime du point de vue ukrainien de dire on va restaurer les frontières d'avant 2014. Mais malgré tout, je crois que si nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, qui est ce que, quand même nous lui disons aujourd'hui, et ne pas laisser que les événements se poursuivent sans aucune véritable réflexion stratégique, je pense que ça c'est nécessaire.
Yegor Gran.
Moi je pense au contraire qu'on fait, non seulement on a raison d'aider l'Ukraine, on aurait dû le faire plus tôt et plus vite. Je suis d'ailleurs assez content qu'on soit resté unis jusqu'à présent, relativement unis sur ce problème. Il faut bien comprendre que c'est l'avenir vital de l'Europe et de l'Occident en réalité qui sont en jeu, parce que Poutine ne s'en cache pas et ses idéologues non plus. L'idée au départ, c'était après l'Ukraine, récupérer petit à petit tout l'empire soviétique, et puis plus loin, faire la fête à l'état de droit, à aux élections non truquées, à tout ce qu'on respecte à peu près en Occident. C'est quelque chose, c'était un objectif affiché et clair. Et ça le reste d'ailleurs encore aujourd'hui.
Oui, je pense, et je crois que Lavrov vient de déclarer que la Moldavie
exactement
serait la prochaine Ukraine.
Exactement. Donc pour et l'instant, son appétit de conquête est tout à fait encore présent. Il y a dans cette phrase hein, ce que vous avez cité, quand on passe du casque au char léopard, il y a ce mot hein, que vous n'avez pas dit, mais qui est l'escalade. Moi, je pense que aujourd'hui, l'escalade, c'est Poutine qui est dans l'escalade. Il est dans l'escalade des crimes de guerre commis chaque jour. On a plusieurs crimes de guerre par jour commis en Ukraine aujourd'hui. On a, à chaque fois que les Ukrainiens libèrent un village, on y trouve des charniers. On a des enfants kidnappés, etc., etc., etc. Donc la liste est longue, si vous voulez. Il y aurait pas un procès de la haie à faire, il y aurait 50 procès à faire.
Qu'est-ce qui peut arriver? C'est ça la question. C'est-à-dire, certains parlent de la nécessité d'une défaite
absolument
de la Russie. Mais une défaite, c'est-à-dire jusqu'à la restauration de l'autorité de l'Ukraine sur tous les territoires conquis, Crimée comprise. Et une défaite est-elle concevable alors que des masses de soldats toujours plus nombreuses, ne cessent de déferler sur l'Ukraine? Donc c'est aussi la question qu'on se pose. Et si la Russie est acculée, ne risque-t-on pas de la voir recourir aux armes nucléaires, au moins tactiques? Faut-il ou non poser la question?
Alors, de mon point de vue, c'est une question tout à fait légitime, mais je pense que il ne faut pas craindre le loup qui se cache dans la forêt. Je vous signale que jusqu'à présent, en un an de guerre, pas un cheveu d'un soldat de l'OTAN n'est tombé. Pas un seul citoyen de l'OTAN n'est mort au combat en Ukraine. Et pas un seul navire de transport d'armement. On aurait pu penser hein, que avec ce flot d'armes qui arrive de tous les coins, qu'un sous-marin, quelque part, à un moment donné, coulerait un navire avec transportant des armes, et ensuite la Russie dirait « Ah ben c'est pas nous, on sait pas qui c'est ». Eh bien non, vous voyez bien que la Russie fait tout aujourd'hui pour surtout ne pas, elle aussi, entrer dans une confrontation avec l'OTAN, d'une part, et d'autre part, vous parlez de défaite de la Russie. Mais ça ne va pas se passer comme ça. C'est-à-dire que si l'Ukraine récupère la Crimée et le Donbass, ce que je lui souhaite le plus rapidement possible, eh bien la Russie ne sera pas défaite. Elle va juste reculer dans ses frontières d'avant. Avant 2014, Poutine lui-même considérait, il l'a déclaré à plusieurs reprises, que la Crimée fait partie de l'Ukraine. Il n'y a pas de polémique à ce sujet. Et sachant en plus, connaissant la machine de propagande poutinienne et en général comment fonctionne cet État, eh bien cette défaite de votre point de vue pour la Russie sera présentée comme une victoire pour les Russes. Ça peut paraître incroyable, mais c'est aujourd'hui à peu près comme ça que fonctionne cette propagande. C'est-à-dire que il va dire pousse, la guerre s'arrête, et les Russes vont applaudir, c'est une victoire, la paix est là.
Vous croyez à cette éventualité, General Empoli?
Alors, écoutez, je crois effectivement que l'avantage pour Poutine, c'est que le rapport entre la réalité et la propagande qu'il peut imposer à une grande majorité de la population russe est effectivement un rapport, disons, de très grande distance. Donc, il peut très facilement, c'est pour ça quand on dit ne pas humilier Poutine, effectivement, lui a tout à fait la possibilité de présenter une humiliation à son peuple comme quelque chose qui ressemblerait plus à une victoire. Donc ça, je pense que c'est vrai. Et je pense aussi que c'est vrai que les Russes ont évité jusqu'à ce moment toute forme possible de confrontation militaire avec l'Ukraine. On se souvient de ces missiles qui sont tombés en Pologne. Et tout de suite, les Russes ont dit « c'est pas nous, c'est surtout pas nous ». Et donc, on voit ça. Malgré cela, je continue à penser que justement parce que Poutine est un ennemi mortel de l'Europe, il n'y a aucun doute sur ça, le combat pour l'Ukraine est un combat pour l'Europe, mais il est nécessaire disons que l'articulation entre notre position et la position ukrainienne soit plus claire. C'est-à-dire que le combat pour l'Ukraine est un combat pour l'Europe, ça ne veut pas dire que nous partageons tous les objectifs ukrainiens. Parce que, vous voyez l'articulation.
Yegor Gram.
On partage au moins cet objectif qui est que, du point de vue du droit international, que l'Ukraine récupère les territoires qui lui ont été volés. Donc, par l'Anschluss de la Crimée, parce que c'est exactement ça. Les objectifs, d'ailleurs, ukrainiens sont assez clairs. Hein, c'est,
oui,
la première chose, c'est ça. C'est
ce vrai. On objectera sur la Crimée, c'est que une grande partie de la population de Crimée est favorable à l'intégration en Russie. Et que donc là, ça pose un problème.
Ça, c'est un postulat qu'il faudrait encore le prouver, parce que c'est une population, déjà, nombre d'Ukrainiens ont fui
voilà.
La Crimée.
Et nombre de Russes
Nombre de Russes se sont installés, ça se compte en centaines de milliers. Donc tout ça, ce n'est pas du tout évident. Et puis vous avez depuis 8 ans un chaudron de propagande russe qui se déverse sur la Crimée, évidemment, qui manipule aussi les esprits. Donc, c'est
bien quand même que la résistance de la Crimée n'a rien à voir avec celle du Donbass, disons.
Oui, c'est pas la même chose.
Opposée à l'Anschluss, comme vous le dites, parce que c'était un Anschluss. Oui. Mais l'Anschluss aussi s'est fait, disons, avec l'enthousiasme d'une large partie de la population autrichienne à l'époque. Non donc, et c'était populaire, l'Anschluss, en 1939.
Hein. Je suis d'accord, mais, oui. mais regardez, si vous posez la question, je sais pas, en Franche-Comté, vous leur dites, est-ce que vous voulez bien vous rattacher à la Suisse? Qui vous dit que la Franche-Comté ne va pas dire « Ah bah oui, on va se rattacher à la Suisse » et donc, à partir de là, le gouvernement... Non mais, et qu'est-ce que vous en savez ? Faisons un référendum et on verra.
Non mais, reste quand même cette question, jusqu'où la Russie est-elle capable d'aller ? Parce que Poutine l'a dit dès le 24 février, quiconque tente d'interférer avec nous et encore plus de mettre en danger notre pays et notre peuple doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et vous conduira à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais été confronté dans votre histoire. Et il a parlé aussi d'une guerre qui ne se terminerait pas simplement avec des blindés. Donc, cette menace nucléaire continue à peser, malgré tout, sur les événements.
C'est toujours le côté « retenez-moi ou je fais un malheur ».
Ben oui, mais justement, mais peut-être va-t-il faire un malheur.
Mais non, mais c'est l'argument du racketteur. Vous savez, le racketteur, le voyou qui agresse vos enfants à la sortie de l'école primaire pour leur voler leurs jouets, eh bien, il est toujours dans un rapport de force, côté « si tu donnes pas, si tu cèdes pas, tu vas voir, je sors mon schlass », en gros. Maintenant, va-t-il le sortir ou pas ? Honnêtement, le voyou de la cour de récréation sort rarement son schlass, voire jamais. Parce que tout est basé sur la faiblesse de celui qui écoute ce message. Et encore une fois, vous avez vu, en un an de guerre, pas un seul... navire, pas un seul train de matériel militaire n'a été saboté, etc.
Pardon, si. Mais alors, faiblesse ou non de l'adversaire, la question que je me pose, c'est, pour finir, c'est celle de l'opinion en Europe. Parce que Lavrov a dit qu'avec cette guerre, il s'agissait de mettre fin à la domination totale des États-Unis sur la scène international. Et c'est intéressant parce que cette façon de voir reçoit un écho. Il y a un anti-américanisme dans plusieurs lieux de l'opinion dite éclairée qui est très fort. Et cette opinion, c'est celle à qui on ne la fait pas. Celle qui ne cède pas à l'émotion, celle qui se flatte de résister au sentimentalisme et qui croit voir plus loin. Et puis aussi, vous citez dans votre livre Yegor Gran, et ça m'a beaucoup frappé, un chanteur du groupe Alissa, qui dit « J'aimerais tellement que les Ukrainiens se réveillent et comprennent enfin que nous sommes un seul et même peuple, mais ils ont été drogués par le Reich LGBT. » Alors le Reich LGBT, c'est une image de propagande délirante, mais il y a aussi cette idée très forte que la Russie lutte contre la décadence de notre civilisation, incarnée notamment par le wokisme. Et certains se retournent vers la Russie en disant au moins ça c'est du solide, ça c'est du viril. Alors cette opinion doit-elle être prise en compte et menace-t-elle un jour ou l'autre de devenir majoritaire, Giuliano D'Empoli?
Écoutez, c'est d'ailleurs frappant de voir à la télévision russe quelle est la part de reportages, d'émissions qui sont consacrées justement aux phénomènes les plus abscons du wokisme. Mais il y a constamment à la télé russe, voilà, des documentaires sur l'école de Floride ou de je ne sais pas où de Californie, ou voilà la présence des transgenres et de la question transgenre sur la télévision russe est absolument disproportionné par rapport au poids effectif de la question dans nos débats. Oui, je pense que c'est un argument que les Russes et le pouvoir russe utilisent beaucoup par rapport à sa propre population. On vous protège de la dégénération, de la décadence occidentale, et c'est un argument qui fait mouche chez nous, dans certains secteurs d'ailleurs même assez larges de l'opinion publique, et ça explique une partie du succès de Poutine politique, disons, dans beaucoup de formations politiques jusqu'à avant la guerre, au moins. Après, il y a d'autres raisons aussi, y compris financières, mais voilà, il jouait sur plusieurs tableaux. Et ça explique aussi, d'ailleurs, je crois, le succès ou disons la force de la position russe en dehors de l'Occident, dans le monde arabe, par exemple, parce qu'il faut bien voir, on a dit souvent que cette guerre n'a pas été, la Russie n'a pas été condamnée, notamment à l'ONU, par une large partie des pays du monde. Alors c'est lié à des raisons géopolitiques, évidemment, la Chine, etc. Mais il y a aussi une question idéologique, parce que des pays et des régimes plutôt autoritaires, patriarcaux, disons, qui ont une vision de la société beaucoup plus verticale, traditionnelle, etc., comme c'est le cas dans bien des parties du monde, eh bien, reconnaissent plus, disons, dans la Russie et dans cette Russie-là et dans Poutine, leur champion plutôt que dans l'Occident décadent. Hein. Il faut bien voir ça.
Igor Gran.
Oui, c'est un peu anti-américain de tous les pays, unissez-vous. Plus large, complotiste de tous les pays, unissez-vous, parce que Poutine fait feu de tout bois. S'il pouvait recruter des terre-platistes dans son mouvement, il le ferait. Aujourd'hui, vous avez raison, quand on parle à des Russes, certains Russes pensent que ici en France, quand je sors dans la rue, il y a systématiquement un type qui s'approche et qui me demande si je veux pas changer de sexe. Et mes enfants, c'est pareil. À l'école, ça serait encore pire. C'est-à-dire que tous les cours commenceraient par on se définirait en tant qu'entité sexuelle. Ils, elles, on. Bon. Mais c'est quelque chose qu'ils croient. Donc, il faudrait allumer un contre-feu, en fait. Il faudrait commencer par créer des programmes, des journaux, quelque chose qui diffuse, qui montre comment est l'Occident en réalité.
Oui. Ben, écoutez, c'est un programme difficile à réaliser, mais il est temps pour moi de renvoyer à vos deux livres Z comme zombie de Igor Gran. Le zombie, c'est le citoyen russe d'aujourd'hui, victime d'une propagande qui est comme un poisson d'avril concocté par des débiles, écrivez-vous. Et le mage du Kremlin, votre roman, Junalo de Empoli, qui est publié chez Gallimard. Z comme zombie est publié aux éditions POL. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Benjamin Perru. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Les parents. Mes invités seront Claire Baglin et Marie-Hélène Lafont. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.